Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer la SLA, ou sclérose latérale amyotrophique, encore appelée maladie de Charcot. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Gaël Bruneteau. Professeur Bruneteau, bonjour.
Bonjour à tous.
Professeur Bruneteau, vous êtes neurologue, professeur des universités et praticien hospitalier au sein du service de neurologie de l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris. Et vous faites partie de l'équipe médicale du centre de référence SLA Paris-Île-de-France, sous l'égide de la filière FILSAN. Alors tout d'abord, professeur Bruneteau, avant d'aborder les traitements en tant que tels, quels sont les enjeux de la prise en charge des patients atteints de SLA ?
La SLA, c'est une maladie qui touche les motoneurones, donc qui s'accompagne de paralysies musculaires qui peuvent atteindre les membres et également les muscles de la parole, de la déglutition et les muscles respiratoires. Alors il n'y a pas à l'heure actuelle de traitement qui permette de guérir la maladie, mais on peut distinguer trois objectifs majeurs à la prise en charge. Le premier axe, c'est de protéger les motoneurones, donc pour ralentir la progression de l'atteinte motrice. Ce sont les traitements qu'on peut dire de fond. Deuxième axe majeur, c'est bien sûr prendre en charge les symptômes et maintenir au maximum l'autonomie du patient. Et enfin, le troisième axe va être de dépister et traiter les complications, en particulier les complications nutritionnelles et respiratoires. Alors la SLA, c'est une maladie chronique dont la prise en charge doit nécessairement être multidisciplinaire et au mieux coordonnée à partir d'un centre expert SLA. Et cette prise en charge multidisciplinaire va faire intervenir différents professionnels. Sur le plan médical, outre le neurologue et le médecin traitant du patient, d'autres spécialistes vont intervenir, comme par exemple médecin rééducateur et médecin pneumologue. Et la prise en charge implique également des professionnels paramédicaux, infirmiers, kinésithérapeutes et ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, diététiciens, en fonction des symptômes. Et d'autres professionnels de santé sont également impliqués dans la prise en charge, comme les psychologues ou encore les assistants de services sociaux.
Si on aborde les traitements maintenant, quels sont les traitements spécifiques de la SLA ?
Alors il n'y a à ce jour qu'un seul traitement spécifique ou traitement de fond disposant d'une autorisation de mise sur le marché en France. Ce traitement vise à protéger les motoneurones en agissant sur un mécanisme de toxicité lié à un métabolisme anormal d'un neuromédiateur excitateur du système nerveux central, le glutamate. Ce traitement est administré par voie orale et vise à ralentir la progression de la maladie. Il n'entraîne pas de récupération des paralysies musculaires déjà installées. Donc il doit être instauré le plus précocement possible dès que le diagnostic est porté. Ce traitement nécessite un suivi biologique régulier, avec en particulier un bilan de cytolyse hépatique, mais sa tolérance est globalement bonne. Pour certaines formes génétiques de la SLA, en rapport avec une mutation dans le gène SOD1, donc le gène de la superoxyde dismutase cuivre-zinc, il existe maintenant également une thérapie génique par un oligonucléotide antisens, thérapie qui doit être administrée par voie intrathécale, c'est-à-dire par le biais de ponctions lombaires répétées, et qui est accessible par le biais d'une autorisation d'accès compassionnelle auprès de l'ANSM. Cette thérapie génique vise à diminuer chez les patients qui sont porteurs de cette anomalie génétique la fabrication d'une protéine toxique au niveau des motoneurones pour ralentir la progression des symptômes.
Et plus largement, professeur Bruneteau, quels sont les traitements symptomatiques de la maladie ?
Un autre enjeu majeur, c'est effectivement de prendre en charge les symptômes de la maladie. Alors les traitements médicamenteux que l'on va utiliser sont nombreux et vont être différents en fonction de la symptomatologie présentée par le patient. Par exemple, on aura recours à différentes classes médicamenteuses pour traiter les douleurs, s'il y en a. S'il s'agit de douleurs liées à l'immobilité ou au point de pression, on utilisera des antalgiques classiques de palier 1 à 3. Alors que s'il s'agit de douleurs plutôt de type neuropathique, on utilisera certains antiépileptiques ou certains antidépresseurs tricycliques. Pour le traitement des crampes, qui sont des douleurs fréquentes dans la maladie, on peut utiliser les dérivés de la quinine, qui dispose d'une AMM comme traitement d'appoint des crampes musculaires essentielles. Et on pourra également utiliser différents traitements à visée antispastique en cas de raideur spastique gênante ou douloureuse. La SLA peut aussi s'accompagner de troubles de l'humeur, qui peuvent justifier d'un traitement antidépresseur médicamenteux en association avec la prise en charge psychologique. Et de plus, il y a également chez certains patients une labilité émotionnelle, indépendante de tout trouble de l'humeur, labilité émotionnelle qui pourra être traitée par antidépresseur tricyclique ou inhibiteur de recapture de la sérotonine, même s'il n'y a pas d'AMM spécifiquement dans cette indication. Un autre exemple, certains patients ont des troubles salivaires. S'il s'agit d'un excès de salive, on pourra utiliser là encore les antidépresseurs tricycliques ou encore la scopolamine, hors AMM. Alors qu'en cas d'épaississement gênant de la consistance salivaire, ce sont plutôt des aérosols hydratants qui seront indiqués. Et en cas de sécheresse buccale, qui peut survenir en particulier la nuit, l'humidification et la salive artificielle pourront être utilisées.
Et pour cette maladie très invalidante qu'est la SLA, quelle est la place de la rééducation dans sa prise en charge ?
Un autre axe extrêmement important, c'est effectivement la mise en place, dès que le diagnostic est posé, d'une rééducation qui doit être adaptée à la symptomatologie présentée par le patient. Pour prévenir les complications liées au déficit musculaire, comme les rétractions, les limitations d'amplitude articulaire, on va prescrire de la kinésithérapie motrice. Et ce travail en kinésithérapie ne devra pas être réalisé dans un but de renforcement musculaire, mais à viser d'entretien de la fonction motrice, avec des mobilisations passives qui ne devront pas être douloureuses. On pourra également réaliser des étirements musculaires en cas de spasticité, et des massages antalgiques et des contracturants. Il est également très important de respecter la fatigue du patient et globalement, le travail en charge et l'électrostimulation excitomotrice sont des techniques qui sont contre-indiquées dans cette pathologie. De la kiné respiratoire pourra également être indiquée en prévention et en traitement de l'encombrement bronchique. Et en cas de trouble de déglutition ou de la parole, c'est bien sûr la rééducation orthophonique qui sera indiquée, avec l'objectif de maintenir une communication et de maintenir des capacités de déglutition le plus longtemps possible. Enfin, une évaluation du handicap et du contexte environnemental du patient en ergothérapie sera toujours indispensable pour permettre la mise en place des adaptations et la mise en place des aides techniques correspondantes.
Et dans cette maladie rare, quelles sont les complications qui peuvent survenir et quel suivi peut-on proposer ?
Le suivi régulier des patients est effectivement indispensable, à la fois pour adapter la prise en charge des symptômes et pour dépister les complications nutritionnelles et respiratoires qui sont les principaux éléments du pronostic vital de la maladie. Tout d'abord, la dénutrition et la perte de poids. Ce sont des complications fréquentes dans la SLA, dont les causes sont multiples, à la fois liées aux difficultés de déglutition et d'alimentation, mais également à l'augmentation de la dépense énergétique de repos, ce qu'on appelle le métabolisme de repos, augmentation de la dépense énergétique de repos qui est présente chez de nombreux patients. Donc un suivi régulier par un diététicien doit être réalisé avec, si nécessaire, des adaptations de la texture des aliments pour les rendre plus faciles à ingérer, un enrichissement des préparations et l'utilisation de compléments nutritionnels oraux pour augmenter les apports en protéines et les apports énergétiques. Et en cas de perte de poids importante, supérieure à 5 à 10% du poids de forme, ou encore en cas de troubles fonctionnels importants, c'est-à-dire un allongement important du temps de repas, des fausses routes répétées ou des fausses routes graves, la mise en place d'une suppléance nutritionnelle sera proposée aux patients. Et il s'agit alors généralement de la pose d'une gastrostomie d'alimentation qui pourra être réalisée sous contrôle radiologique ou endoscopique en fonction de la situation clinique. De la même manière, la surveillance régulière de la fonction respiratoire est indispensable en raison du risque d'insuffisance respiratoire par atteinte des muscles respiratoires et en particulier du diaphragme. Quand elle est nécessaire, la mise en place d'une assistance respiratoire se fait le plus souvent par ventilation dite non-invasive, donc par le biais d'un masque positionné au niveau de la figure du patient. Et cette ventilation non-invasive sera proposée en cas de symptômes d'hypoventilation alvéolaire ou bien en cas de syndrome d'apnée du sommeil, avec des critères de mise en place stricts qui sont bien définis. Cette assistance respiratoire par ventilation non-invasive a des bénéfices démontrés en termes de qualité de vie, de qualité du sommeil et également sur la survie, mais il y a cependant un risque d'augmentation des besoins en ventilation et de dépendance à la machine. Une autre technique d'assistance ventilatoire mécanique, dite ventilation invasive, cette fois par le biais d'une trachéotomie, s'accompagne de conséquences potentiellement très lourdes en termes de qualité de vie et de prise en charge au domicile. Donc ce type d'assistance ventilatoire par trachéotomie ne sera envisagé que dans le strict respect des directives anticipées du patient. Et le patient et son entourage doivent en particulier être informés que sa mise en place n'a pas d'effet sur la progression naturelle du tableau neurologique de la maladie et donc sur la progression des paralysies motrices vers une dépendance totale. Donc globalement, en ce qui concerne la suppléance des fonctions vitales, la démarche décisionnelle devra toujours être collégiale, en concertation avec le patient et sa famille.
Alors, professeur Brunotto, dans cette maladie, la recherche avance. Quelles sont les nouvelles perspectives thérapeutiques dans la SLA ?
Effectivement, il y a de nombreux projets de recherche en cours dans le domaine de la SLA. Déjà, notre connaissance des mécanismes en cause a beaucoup progressé depuis ces 20 dernières années avec la mise au point de modèles de la maladie, modèles qui ont permis d'identifier des cibles accessibles au développement de nouveaux traitements. À côté du rôle de l'excès de glutamate, qui est connu depuis les années 90 et qui avait permis le développement du premier traitement, de nombreux autres mécanismes impliqués dans la mort des motoneurones sont maintenant connus, comme par exemple le stress oxydant, les anomalies du métabolisme des protéines ou des ARN, ou encore le rôle de la neuroinflammation. Donc il y a actuellement de nombreux essais thérapeutiques dans la SLA qui évaluent des traitements ciblant ces différents mécanismes de toxicité au niveau des motoneurones. Et un autre élément important, c'est qu'on commence à mieux comprendre les raisons de la variabilité évolutive de la maladie, dont la vitesse d'aggravation va être plus ou moins rapide selon les patients. Cette amélioration des connaissances sur la maladie devrait donc permettre à terme le développement de nouveaux traitements neuroprotecteurs pour ralentir la dégradation de la fonction motrice et pour allonger la survie des patients.
Eh bien, merci mille fois, professeur Brunotto, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est la sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralecoute.com. De nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.